Pour parler des conférences, nous nous sommes tournés vers une des auditrices de CPU depuis ses débuts et accessoirement une des organisatrices historiques des conférences techniques Sudweb. Mais comme je l'ai fait remarquer dans l'émission 204, après le Covid, il y a embouteillage de mariage dans les mairies et là aussi, on a eu trois conférences qui se déroulaient au même moment dans la même ville. À savoir Sudweb, Faire Festival et Agile Tour Toulouse. Et finalement, l'équipe de Sudweb a dû renoncer à l'édition prévue en juin 2003, faute d'inscrits. Cette interview a donc été préparée avant l'annulation. Dommage, car la journée conférence et celle d'atelier s'annonçaient passionnantes. Je dis pas ça parce que j'étais la première. Cela rend du coup l'interview d'autant plus intéressante. Donc, pour parler de Sudweb et de comment se prépare une conférence technique, nous recevons dans notre data center Nathalie Rosenberg, senior UX designer freelance pour beta.gouv, spécialiste stratégie et content design, animatrice des défunts de soirée After Work, Flupa et Apéro Web Toulouse, cofondatrice de Sudweb et Lady Gaga du Web à paillettes.
Tout à fait.
Ceci est la première partie de l'interview. La version longue est déjà disponible sur la page web de l'émission cpu.pm/205.
CPU, carré, petit, utile.
Nathalie, quelle a été ta première expérience de conférence technique ?
Salut, re-salut. Et alors, en fait, j'ai essayé de réfléchir. Au départ, j'allais répondre ParisWeb en 2009. Et je me suis souvenu que, alors ça devait être en 2006 ou 2007, j'étais allée à une conférence sur l'accessibilité à Paris. Je me souviens plus qui organisait, mais c'était... alors, je sais pas si c'était Brainet ou quelque chose comme ça, à laquelle j'étais allée, finalement, cette année-là. Je me souviens d'avoir vu Chris Hillman, qui a quand même bossé, ouais. Voilà, prêt pour...
qui maintenant bosse pour Google.
Oui, il est sorti de chez Microsoft, il est parti chez Google, il est passé chez Mozilla. Et voilà, il a fait toute la Silicon Valley, je pense. Et donc après, ouais, j'ai fait ParisWeb en 2009, qui a été la première conférence, j'ai envie de dire, mémorable, parce que c'est vrai que la conférence accessibilité, j'en ai pas trop de souvenirs, finalement, sur les contenus, etc., à part un petit truc sur un exemple de site dont je me sers régulièrement, sur cette histoire d'un site d'une assurance anglaise qui avait fait des pages dédiées accessibles, donc qui étaient beaucoup épurées, et ils se sont rendu compte qu'ils avaient un très fort trafic sur ces pages, parce qu'elles n'avaient pas de fioritures, elles n'avaient pas de pub, elles étaient construites de manière beaucoup plus simple, et donc les gens allaient dessus, voilà, c'est tout.
Smart is beautiful. Voilà. En tant que participante, quelle est la différence avec les soirées after work techniques ?
Alors, les after-work, c'est un jour, enfin, c'est une soirée, comme ça, à l'occasion. Typiquement, les apéros web qu'on a fait à Toulouse, il y avait souvent l'apéro, et pas forcément le web derrière. On essayait de chercher des gens qui fassent une petite présentation, et c'est vrai qu'on tournait toujours même 20 personnes. On a fait une fois, on était 45, je me souviens. C'était Sylvain Vallès qui avait présenté, si c'est sur...
C'était en 2015, un truc comme ça, ouais.
Je ne sais plus.
Parce qu'est-ce que va être l'IoT?
Voilà, c'était sur l'IoT, et tout le monde avait été venu, c'était passionnant. Alors qu'en fait, une conférence, eh bien, tu y vas, tu rencontres généralement beaucoup plus de personnes. C'est sur un jour, deux jours, trois jours. T'as des tas de sujets variés. Alors, en fonction des conférences, tu vas avoir une seule salle, deux salles, trois salles, 20 salles, 50 salles, pour les plus grosses. Donc, t'es plus du tout à la même échelle, quoi. L'apéro web, c'est vraiment... Enfin, l'apéro web, l'after work, c'est entre copains. Enfin, après, je vois qu'à Toulouse, c'était toujours les mêmes personnes qui venaient. Voilà.
Alors, on a parlé tout à l'heure de ta première journée de conférence technique à laquelle tu étais allée. Qu'est-ce qu'elle t'a vraiment amené la première fois que tu étais à ce genre de journée?
Alors, quand je suis allée à ParisWeb en 2009, au niveau de mon taf, j'étais en dessous de tout. C'est-à-dire que là, j'y arrivais plus. J'étais dans un environnement où, globalement, je bossais l'équivalent de... Enfin, j'avais du boulot pour 2 heures par semaine. Donc, je venais tous les jours, à rien faire. C'était en bore-out, hein, ou brown-out, je ne sais jamais la différence entre les deux. Mais bref, ça n'allait plus. Et j'y suis allée, mais... complètement dépité. Alors, ParisWeb, à l'époque, c'était une grosse machine, il y avait 600 personnes, il y avait déjà plein de gens qui se connaissaient, donc il y a des petits groupes comme ça qui gravitent, qui se parlent. C'est assez difficile, finalement, de s'y intégrer. Mais à la fin de la première journée, en fait, il y a eu une table ronde des orateurs de la journée. Donc, il y avait notamment, à cette table ronde, il y avait Eric Daspet, J'ai posé quelques questions, moi je suis intervenue parce que c'était une table ronde avec le public, et à la fin de la table ronde, il est venu me voir, et il m'a dit « Des profils comme toi, moi j'en cherche dans ma boîte ». Donc à l'époque il était chez SQLi, je pense. Et on a discuté un peu, et rien que ça, ça m'a remonté le moral. Ça m'a redonné la pêche. Alors après, j'ai jamais postulé, parce qu'il se trouve que quand je suis revenue à Toulouse, une semaine après, en fait, on m'a embarqué dans un projet très très intéressant qui m'a occupé de 2009 à 2018. Mais j'ai jamais oublié ça, et Eric, aujourd'hui, c'est un ami avec qui j'ai des contacts assez réguliers, et c'est quelqu'un qui a, pour moi, été un petit peu un mentor pendant pas mal de temps.
Ça t'a remonté.
Ça m'a remonté, et puis voilà, moi après j'ai fini par rencontrer plein de gens, parce que j'y suis retournée tous les ans, ou quasi tous les ans, depuis. À l'époque en plus, il n'y avait que celle-là, qui existait en conférence.
C'est vrai. Parlons de Sudweb, d'où est venue l'idée ?
Alors pas de moi, même si je suis dans l'équipe fondatrice, c'est en fait d'autres gens qui étaient déjà allés à Paris-Web les années d'avant, parce que moi, voilà, première année 2009, mais Paris-Web a commencé en 2006, et c'est des gens qui sont allés déjà en 2007 et 2008. Paris-Web a cette espèce de gimmick running gag qui est à chaque fois qu'on y va, il y a des grèves SNCF, des grèves oui. RATP, et il pleut.
C'est vrai.
Donc il y a eu, je crois, je sais plus quelle année, 2007 ou 2008, où en fait il y a des gens du Sud qui sont montés ils ont fait un covoiturage, ils sont tous montés ensemble, et pendant le trajet ils ont discuté en disant, bon bah Paris-Web c'est bien, mais il y a que ça, c'est une fois par an, puis c'est à Paris, et ça serait bien de pouvoir faire un autre événement dans l'année pour qu'on se retrouve deux fois par an et pas qu'une seule fois, et puis de le faire dans le Sud. Donc ça a commencé à germer comme ça. Et en 2010, une année où il y a eu encore des grèves RATP... Il y a quelqu'un, donc c'est Loïc Matteau, qui est à la fin de du vendredi, en fait, à Paris Web, au moment où l'équipe a fait merci à tout le monde, etc. Il est monté sur scène, il a un petit peu hacké finalement le micro en disant « Ça fait longtemps qu'on parle de l'idée de faire un truc dans le Sud, allez on se lance, ceux qui veulent, contactez-moi ». Et donc, alors moi j'étais pas là parce que j'étais partie très très vite après la fin de la dernière conférence pour attraper un RER puisqu'il y avait la grève pour aller à l'aéroport, mais j'ai vu son message après sur Twitter et je l'ai contacté, je le connaissais pas, et voilà, et je me suis retrouvée dans l'équipe.
Parce que lui il était à Avignon mémoire à l'époque.
Il anime, mais voilà, mais on se connaissait pas, et voilà, je l'ai contacté, je lui ai dit moi ça m'intéresse, je savais pas où j'allais, franchement je me suis dit je vais faire quoi là-dedans en fait.
Et finalement, c'est monté comme ça, à découvrir leur gars et tout ça.
Ouais, bah alors, donc on s'est retrouvés, c'était une grosse équipe hein, la première année, je crois qu'il y avait plus de 12 personnes, alors il y en avait qui se connaissaient, moi je connaissais personne, à part vaguement une autre personne de Toulouse qui était Franck, qu'on s'était croisé deux fois, on est devenus très proches et très bons amis après, mais voilà, ça a été... un truc un petit peu à l'arrache, parce que c'était pareil, tout le monde nous avait dit « c'est génial, votre idée, ce que vous faites, etc. » On fait l'appel orateur, on fait le programme, on lance le programme, et là, c'est un peu le vide, il n'y a pas beaucoup de places qui partent. On était à deux doigts d'annuler, déjà là, et finalement, on s'est dit, on a fait un peu les calculs, et on dit « bon, il faut qu'il y ait X places qui soient vendues, pour se dire que c'est bon, on sauve l'affaire. » Les places se sont vendues, alors je sais plus combien de personnes étaient venues, je crois qu'il y a dû y avoir 60 personnes cette première année-là, bon ça s'est maintenu, puis finalement après on a continué.
Coup de bol. Paris-Web est surtout connu pour l'accessibilité. Quelle est la position spécifique de Sudweb par rapport aux autres conférences comme Mixit, Paris-Web et tout ça, en dehors de la zone géographique, on a bien compris.
Ça s'est construit avec le temps, parce qu'au départ, c'était pas évident. Ça s'est vraiment créé comme une petite sœur de Paris Web. C'était, en gros, on prend la même chose et on la réplique dans le Sud. Donc, on a fait un premier appel orateur où on avait aussi un petit peu des conférences techniques, etc. Et à partir de la deuxième année, on a commencé à se dire... parce qu'on avait eu des conférences de gens qui nous disaient ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils faisaient en vrai et tout... Et on s'est dit, ça, c'est un créneau intéressant, d'avoir finalement de focaliser vraiment sur le retour d'expérience, et donc de focaliser sur l'humain, plutôt que sur la technique. Donc à partir de là, on a dit, On veut plus de conférences hyper techniques où on t'explique comment déployer ton Docker dans ton Kubernetes avec du MySQL. Voilà, je ne sais pas si c'est cohérent, mais on s'en fout. Ou de faire des conférences les 10 CMS à connaître pour mettre en place les sites web dans ton entreprise. On a dit ça, non, on veut plus. De même que on avait des formats qui étaient 5 minutes, 20 minutes, 40 minutes, et on a dit les 40 minutes, finalement, on les fait plus. Parce que c'est trop long, donc on s'est focalisé sur les 5 et les 20. Et ça, c'était ça. Et l'autre élément essentiel aussi, c'était de dire, on fait du monotrack. Alors, la première année, c'était par défaut, parce qu'on démarrait, on n'allait pas se lancer finalement dans les grandes choses.
On explique, effectivement, monotrack, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul programme, il n'y a qu'une seule salle.
Il y a une seule salle, voilà, et tout le monde voit la même chose. Mmh. Voilà. Et c'était par défaut, mais assez rapidement, finalement, on s'est dit, bah, oui, mais on veut ça, en fait. C'est de que tout le monde vienne, qu'il n'y ait pas plus de 200 personnes, tout le monde voit la même chose. Comme ça, ça force finalement les gens à aller voir des choses. Il y a quelqu'un, une fois, qui m'a dit, moi, ça m'oblige finalement à aller voir des trucs que je ne serais pas allé voir s'il y avait eu plusieurs salles en parallèle. Et j'en suis très ravie, et c'est quelqu'un qui venait tout le temps en plus.
Moi, en 2013, c'était l'édition qui avait eu lieu au Palais des Papes en Avignon.
Oui.
J'étais dans une boîte qui voulait se lancer dans la GED, dans la gestion électronique de documents, qui faisait de l'archivage physique de papier pour les notaires. Et j'avais un patron qui me voyait, qui avait le même enthousiasme que moi, mais qui n'était pas du tout dans le domaine du web, de l'informatique et tout ça. Je ne vais pas citer son nom, j'ai peur d'écorcher son nom, ce serait dommage pour lui. En fait, je vais à Sudweb. Et le matin, du vendredi, je le vois, et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoute, t'en as tellement parlé, et ça a l'air formidable, j'ai envie d'y aller. Alors lui, il était allé qu'à des salons professionnels de notaires, où tu as les sociétés de généalogie qui versent le champagne, etc. Et tout le monde est habillé comme ça. Là, il voyait des balles, tout le monde s'est balancé, la salle avec l'orateur au milieu, il était là, et puis, il se disait, en fait, qu'est-ce que je fais là? Parce que le sujet, peut-être que ça va pas du tout m'intéresser. À la fin de la matinée, il m'a dit, à part une conférence, toutes elles ont parlé de moi, notamment la conférence qui sert un petit peu d'exutoire, où on a parlé, est-ce que votre travail peut vous tuer? Et là, comme jamais, il a dit, mais jamais on m'a parlé comme ça de moi. Et vraiment, il en était enchanté. C'était un très grand souvenir. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Nathalie Rosenberg pour parler d'organisation de conférences techniques. Elle qui, justement, a participé à la création et à l'organisation des conférences Sudweb. Alors, Sudweb est un cycle de conférences itinérant. Finalement, c'était une bonne idée.
Oui. Oui.
Pourquoi ?
Parce que ça permet finalement d'élargir un petit peu son public. Hein. Je te rappelle, on avait dit, nous dans le manifeste, c'est pas plus de 200 personnes. Alors en plus, on n'a jamais été 200. Au plus haut, on a été, je crois, 170 l'année où on était à Bordeaux. Et en finalement bougeant sur la ligne sud entre l'Est et l'Ouest, ça permet de toucher un petit peu plus de personnes, même si on a toujours eu un noyau dur qui venait d'une année sur l'autre. Petit fait amusant, en 2017, on était à Aix-en-Provence, on a eu très peu de gens qui sont venus de Marseille, on a eu beaucoup plus de gens qui sont venus de Lille. On a eu plus de Lillois que de Marseillais cette année-là. Je pense que les Marseillais avaient pas envie de bouger, donc voilà. Mais c'est bien parce que ça permet aussi de changer, d'avoir des lieux un petit peu différents, donc ça ronronne pas. On a bien vu, hein, entre toi, la salle du conclave au Palais des Papes, on a fait...
Il faut dire que Paris Web, depuis la seconde édition jusqu'en 2016-2017, ils étaient dans des locaux qui étaient prêtés par IBM.
Ils ont changé un petit peu. Hein, ils ont fait...
Oh, mais depuis, ils y sont plus. Ouais.
Après, ils ont fait IBM, après ils étaient aussi au Beffroi de Montrouge, tu sais, à Montrouge, près de la mairie. Ils ont tenté une année d'aller à la bourse, ça leur a coûté une blinde.
Tu m'étonnes.
Voilà, hein. C'était très très cher. Mais à l'époque, la conférence marchait bien. Donc non, être itinérant, c'est du challenge. C'est de se dire, on trouve une ville. Enfin, on décide sur une ville, et puis après, on trouve un lieu, et puis.
Précédente édition où l'idée c'était de passer un week-end où c'est pas vraiment un lieu qui était prévu pour accueillir des conférences. L'idée était de faire une espèce de camping, techniquement.
C'était un YMCA.
Oui, c'était une auberge de jeunesse.
Voilà. Alors moi, j'étais plus dans l'orga cette année-là, et effectivement, être un petit peu en dehors de tout. Donc ils sont allés à Anduze, effectivement, donc tout petit village. Alors il y a plein de gens qui m'ont dit « je connais ». Moi, je connaissais pas. A priori, c'est un haut lieu de vacances dans le sud-est. Donc ils ont fait ça, et c'était avec un tarif all-inclusive, donc avec des chambres, dortoirs un petit peu. Alors il y a des gens que ça a rebuté, je sais qu'il y a des anciens qui m'ont dit « moi ça me branche pas trop finalement d'aller dans le dortoir, j'ai passé l'âge ». Il y a des gens qui ont bien aimé, ça a été vraiment des ressentis assez différents, alors j'ai pas trop... Voilà.
C'était
à tenter, ils l'ont fait, voilà.
Donc, conférence itinérante. Pourtant, sur les 8 précédentes éditions, Toulouse est la seule ville où il y en a eu 2. Donc, doit avoir un truc ici. Je suppose que notre émission de radio n'a absolument rien à voir.
Alors, il y en a eu 3, et avec celle-là, il y en aurait eu 4.
Parce que il y a une erreur sur le site, alors peut-être. Ouais,
2019.
Oui.
2019, effectivement, c'était aussi à Toulouse. Il y a eu 2012, 2014... 2019, et puis là, bah, la défunte morte-née 2023. Pourquoi Toulouse? Bah, ce qui est important, alors, moi, j'avais dit souvent, c'est, il faut que ça ait lieu dans une ville où il y a quelqu'un de l'orga. Donc, c'est sûr que quand ils ont fait rendu, il y avait personne sur place, alors ça a dû être un petit peu compliqué, mais ils s'en sont sortis. Et, là, dans les discussions qu'on a eues sur, est-ce qu'on relance Sud-Web, voilà, j'ai donné un peu le go, donc de fait, on s'est dit, bah pourquoi pas Toulouse. Et puis au départ, dans l'équipe sur les 7-8, on était 3 à Toulouse, donc finalement, c'est un petit peu la majorité qui l'emporte. Mmh. Après, on avait des gens sur Paris, des gens en Suisse, et puis une personne qui est sur comment Saint-Étienne, c'est pas le Sud. Même s'il le voudrait bien, je le sais, mais bon.
Quel est le public habituel qui vient dans ces conférences techniques?
Alors,
ça dépend effectivement du thème, de la marque, entre guillemets, de la conférence et de là où elle a lieu, donc on va prendre Sud-Web.
Sud-Web, alors, ça a été, je dirais, par affinité de gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, pas mal de ça. Je dirais un tiers, c'était ça. C'était des gens qui revenaient tout le temps, qui, une fois qu'ils avaient découvert une première édition, se disaient « c'est trop bien, je reviens ». Et puis après, c'est qu'en fonction des villes, on avait des gens, on est allé à Bordeaux, on a eu des gens de Bordeaux, à Toulouse, on a eu des gens de Toulouse, à Montpellier, on a eu des gens de Montpellier, donc ça brasse un peu plus large. Alors après, on n'a pas fait d'enquête pour savoir finalement pourquoi les gens venaient. Est-ce que parce que c'est des sujets qui leur parlent, parce que c'est pas des sujets pure technique, et que quand on est dans le numérique, mais qu'on n'est pas développeur, développeuse ou admin 6, il faut trouver finalement des conférences qui peuvent nous intéresser.
Le prix moyen d'un ticket pour une journée de conférence technique, ça tourne à combien à peu près?
Ça dépend des confs. Là, je relisais un billet tout à l'heure.
Capitole du Libre, c'est gratuit.
Okay, non, mais Capitole du Libre, c'est gratuit. Le FOSDEM, c'est gratuit. Mais c'est des conférences qui arrivent à quand même brasser finalement des sponsors pour assurer le minimum. C'est-à-dire que le Capitole, qu'est-ce qu'ils ont à payer? Peut-être les défraiements des orateurs, des oratrices. Parce qu'après, c'est que des bénévoles. Les gens qui filment, c'est les gens de l'école. La bouffe, c'est il y a des food trucks qu'on paye, voilà.
On va y venir,
Sud-Web, on a tourné aux alentours de 200, 250. Là, cette année, on était à 180.
Pour les deux jours.
Pour les deux jours.
Ouais.
Paris-Web, là, ils sont à 450. Il y a des conférences qui peuvent monter à beaucoup plus que ça et qui peuvent faire le plein. Puis, il y en a, elles sont énormes. Et finalement, elles sont à 60, 70 euros. Parce qu'il y a Whatmill Sponsor derrière qui peuvent assurer l'ensemble finalement des prestations.
Et qui en plus seront heureux de faire gagner des Lego et des caches webcam transparents.
T'es sûr que c'était pas à l'Agile Tour ça, les Lego? Parce que c'est quand même un truc très agiliste.
J'ai été moi. Après, il y avait beaucoup d'agilistes et beaucoup de conférences agiles à Devox. Mais on a posé la question à des gens qui tenaient stand et c'était que les RH qui me répondaient, qui disaient « Ah mais on pensait que ça faisait plaisir aux développeurs ». Prenez au moins un objet adulte, un jouet adulte qui vibre, par exemple. Enfin bon, il y en a qui ont beaucoup ri. Est-ce que Sud-Web est éligible au CFP ou à d'autres dispositifs de financement?
Alors, quand il y avait le DIF, on l'a fait.
Ça, c'était l'ancien dispositif.
Voilà, c'était l'ancien dispositif, c'était le droit individuel à la formation. On a réussi à le faire passer. Ça passait, je ne sais pas comment, et on l'a mis en place. Et on a des gens qui, 3-4 années où on l'a fait, en ont bénéficié et ont fait la demande. Donc, je dirais une quinzaine de personnes à chaque fois. Là, par contre, avec le CPF, c'est pas possible parce qu'il faut être certifié, être inscrit sur le truc. Et globalement, il y a que des gros machins qui sont dessus.
Oui, surtout qu'en plus, ils sont en train de faire le ménage parce qu'il y a eu énormément d'abus.
Ouais. Mais c'est un ménage qui est un petit peu aussi abusif parce qu'il y a des trucs intéressants qui sautent.
Vous mettez en ligne les captations vidéo des conférences, alors pourquoi payer pour y aller?
Pour le reste, pour tout ce qui va autour. Et alors, je vais citer un truc, c'est Loïc, donc, qui était monté sur scène et qui a lancé finalement la machine, qui a été président pendant pas mal de temps. Un beau jour, je me souviens, c'était à Montpellier, on était en train d'organiser des trucs pendant qu'il y avait une conférence pour la pause. Et il a sorti cette phrase absolument rigolote, il a dit « C'est chiant toutes ces conférences entre les pauses ». Parce qu'en fait, c'est vrai que... C'est vrai que Sudweb, ça a toujours été réputé pour finalement être un moment très convivial, avec des pauses assez longues, qui permettent aux gens de discuter entre eux. Le fait notamment qu'ils voient la même conférence, qu'il y en ait qui se retrouvent parce qu'ils ne sont pas vus depuis très longtemps. Donc ça crée du lien, ça crée de la dynamique, ça crée un environnement très très intéressant. Et l'équipe a toujours aussi essayé finalement d'inclure les gens dont on voyait qu'ils étaient un petit peu tout seuls dans leur coin, que c'était des nouveaux, ils connaissaient pas grand monde, ils étaient peut-être un petit peu timides, donc on allait les aider finalement à s'intégrer.
C'est vrai que je l'avais pas remarqué du premier coup, mais c'est vrai que vous jouez énormément le rôle d'icebreaker, etc. Chose qu'on voit pas justement sur les confs beaucoup plus grandes.
C'est pas facile, ouais.
C'est pas évident, ouais.
Bah sur un petit nombre, c'est facile de voir finalement des gens. Lui, il était tout seul ce matin. Oui, il est peut-être nouveau. Et puis, à la pause de 10 heures, tu vois qu'il est encore un petit peu tout seul et qu'il a pas l'air, finalement, de savoir trop où aller. Donc, finalement, il y a quelqu'un de l'équipe qui peut aller voir la personne et lui dire « Est-ce que on peut t'aider à quoi que ce soit ?» Présenter peut-être des gens et t'oses pas le faire tout seul, etc. Ça a été vraiment... Et donc, toute cette ambiance, le jeudi soir, avant la conférence, le vendredi soir, entre les deux journées, et puis le samedi, quand tout le monde se lâche, enfin, tout le monde se détend, etc., c'est ça aussi, finalement. Une conférence, c'est pas que aller asseoir son cul, finalement, dans un amphi, c'est tous les à côté.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Nathalie Rosenberg pour parler d'organisation de conférences techniques, elle qui, justement, est dans l'organisation de Sudweb, qui a malheureusement dû annuler son édition 2023. Et, justement, derrière Sudweb, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise? C'est une organisation? C'est un groupe informel? C'est un groupe terroriste?
Zut, on est dénoncé, on a été découvert. Non, en fait, c'est une association qui... Alors, il y a que nous, enfin, il y a que les membres actifs, hein. C'est pas une association où on adhère, comme, je sais pas, Amnesty International ou autre. Et globalement, il y a eu entre, je sais pas, 5 et 15 personnes. L'année la plus petite, on a fait à 4. En 2014, l'édition, on l'a fait à 4, et on a réussi. Donc, on n'a pas besoin d'être 25. Il y a des fois, je vois des conférences où il y a... qui n'ont pas l'air plus grosses que Sudweb. Et puis, je vois l'équipe Orga, ils sont 25. Je me dis, mais pourquoi il y a autant de monde? Qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces gens, en fait? Le jour J, pendant l'avant, l'après, enfin, bref.
Le temps d'organiser tout ça, quand même, ça doit prendre un temps monstre. Mais comment pouvez-vous vous infliger ça alors qu'en tant que professionnel reconnu, vous devez avoir des agendas et des carnets de commandes pleins comme des œufs?
On le trouve. Hein. Tu disais tout à l'heure qu'on est des passionnés. Donc, il faut des passionnés pour faire ce genre de choses, comme il faut des passionnés pour faire du logiciel libre ou faire de la maintenance. Voilà. Donc, c'est pareil. Et alors, c'est vrai que cette année, on s'y est pris très tard. Hein, ça a beaucoup tardé, finalement, à se relancer, à mettre en place la machine. Donc, il y a peut-être aussi de ça qui fait que on a dû annuler. Mais globalement, on trouve du temps. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Moi, je vais faire partie de l'orga », alors que ce soit cet orga ou sur d'autres orgas, et puis qui, finalement, lâchent l'affaire parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas le temps. Et faut pas hésiter à le dire. Moi, j'ai envie de dire ça aux gens qui, s'ils ont envie finalement un jour de rejoindre l'organisation d'une conférence comme ça, c'est un investissement un petit peu minimum. Et si vous sentez pas le faire à un moment donné, n'hésitez pas à dire j'arrête, plutôt que de dire non mais c'est bon, je vais le faire, et de finalement reporter et de reculer encore plus. Et de pas assurer finalement les tâches qui vous ont été assignées, parce qu'on essaye aussi de...
Dans toute organisation bénévole, c'est l'énorme problème, effectivement, c'est la personne qui n'arrive pas
à lâcher.
À lâcher, c'est un immense souci, pour cela. Donc oui, effectivement, attention, si vous impliquez dans quelque chose, il faut savoir dire assez tôt, là je pourrais pas. C'est vraiment une énorme difficulté. À part les prestataires, et là-dessus on compte aussi bien la restauration, la prise de son, l'éclairage et tout ça, personne n'est rémunéré, on est très loin des très gros salons professionnels. Pourtant le prix d'entrée est quand même assez cher.
Alors, dans le prix d'entrée, il va y avoir l'allocation de la salle, le traiteur, le défraiement des orateurs. C'est-à-dire qu'on paye l'hôtel et on leur paye le voyage. Donc et plus, après, il y a tous les à côté. Donc, il va y avoir les badges, les tours de cou, les kakémonos, les t-shirts de l'équipe. Bon, ça, c'est pas le plus gros budget, mais l'assurance aussi, la captation vidéo, plus, voilà, bon, après, les petits trucs un petit peu annexes, là, le nom de domaine, les outils en ligne, etc.
Ça, c'est pas excessivement
cher. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais souvent, ça va être effectivement les prestations de bouche, d'hébergement, tout ça, c'est... Parce qu'en plus, on n'a jamais voulu faire un truc genre « démerdez-vous avec des sandwichs ». On aide à la convivialité, et donc on cherche des traiteurs un petit peu élaborés. Alors on a pu nous le reprocher à un moment donné, de dire c'est bon quoi, vous mettez beaucoup de sous là-dedans, mais ça faisait finalement partie un petit peu de l'ambiance globale.
Parce que ça casse le quotidien, parce que
y a du plaisir. J'ai envie de dire, on est en France, donc c'est vrai qu'on aime bien finalement la bonne chère. En 2016 à Bordeaux, il y avait... c'était Chris Lewis, je crois, qui est un orateur anglais, et Chris Lewis qui fait des trucs audio, je crois, me souvenir.
Web audio.
Et, web audio, voilà. Et il était en train de manger, finalement, je crois que c'était de la plancha, des fruits de mer, et je lui dis, c'est bon, il m'a dit, ça change tellement des conférences anglaises, où on a juste des pauvres sandwichs absolument dégueulasses. Voilà. Bah rien que pour ça, tu vois.
C'est vrai qu'à la limite, ça, je crois que vous l'avez fait d'ailleurs. Il y avait, si je me souviens bien, c'était en Avignon, où dans les goodies, justement, il y avait un petit programme de ce qu'il y avait à faire en Avignon, le syndicat d'initiative.
Oh, peut-être, ouais. Je ne sais plus.
C'était, puisque du coup, c'est vrai que le vendredi, il y a le jeudi, la
jeudi
veille,
soir.
Où il y a les orateurs, l'organisation, mais il y a aussi ceux qui sont venus la veille qui peuvent y participer pour Sudweb. C'est le cas dans plein de salons de ce genre des fois il y a des événements qui peuvent être ouverts justement au public habituel en plus. Le vendredi pour Sudweb, c'est la journée de conférence avec une soirée
à la soirée communautaire.
La soirée communautaire. Je tiens à signaler d'ailleurs, je l'ai pas dit dans mon intro, Devox et la THCon, la soirée de la première journée de conférence, c'est un buff ouvert avec guitare, batterie, synthé qui était installé et soirée karaoké. C'était super, n'importe quoi. Surtout qu'il y en a qui ont fait semblant de savoir lire le français, c'était à pleurer, c'était génial. Et le samedi donc pour Sudweb, d'ailleurs, pour la plupart de ce genre d'événements, le samedi en général est consacré aux ateliers. C'est pour ça aussi que les entrées sont moins chères, ou c'est en groupe un peu plus écarté. Des fois, en général, il y en a qui en profitent un petit peu pour visiter. Le samedi soir et le dimanche, on se retrouve informellement, en général, pour justement profiter,
pour ceux découvrir qui sont restés,
un petit peu. Ouais. Et c'est vrai qu'on a fait des super balades, c'était vraiment marrant à plusieurs, et ça prolongeait la conversation. C'est quoi les plus beaux souvenirs de ville d'ailleurs que tu as fait?
Alors a priori à Avignon, non c'était si à Avignon il s'est visiblement passé beaucoup de choses. J'en entends toujours des fois repopper des bouts. Il y en a qui ont fini en boîte. Alors à Avignon entre des boîtes, il n'y en a pas trop beaucoup. Mais je sais que le samedi finalement aux ateliers, il y en a qui sont arrivés à midi, pas très frais. Voilà. Voilà, ça a été un petit peu bon. C'est en tout cas ceux qui étaient là s'en souviennent encore.
Surtout qu'il y en a qui ont remis ça le soir même.
Voilà, oui, il y en a c'est un petit peu des fêtards reconnus. Les meilleurs souvenirs, je sais pas, il y a pas mal de choses en fait et c'est pas facile, je dirais. C'est vrai que, par exemple, en 2014, à Toulouse, on était à l'espace Vanel, qui est tout en haut de la médiathèque, donc on a une vue...
Où il n'y a pas encore le Moudin Kiki qui gêne au milieu.
On a une vue imprenable sur Toulouse. Alors, il faisait beau, donc voilà, il y a une énorme... pour vous représenter, hein, c'est une arche, donc on est tout en haut de l'arche, et il y a une énorme terrasse où, finalement, on en a profité, et on a fait la soirée là.
On voit l'avenue Jean Jaurès sur tout
voilà,
le long.
Voilà, on voit les allées.
Incroyable.
Ça, c'était très, très joli. Alors, l'intérieur, c'est du truc classique de conférence avec des panneaux qu'on peut bouger pour moduler les salles, donc c'est pas très très intéressant, mais et puis oui, le Palais des Papes, c'est vrai que c'était assez inattendu, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit oh, ça doit coûter cher, et en fait ça coûte le même prix que n'importe quelle salle qu'on a pu avoir avant après, donc c'était à peu près 3 000 euros pour la journée, ce qui était quasiment rien. Donc, et être finalement dans cette salle du conclave où il y a des sièges de chaque côté et il y a une allée au milieu et donc les orateurs, les oratrices finalement se baladent au milieu.
En contrebas par rapport aux
voilà,
autres.
Voilà, donc c'est une salle qui normalement contient 600 personnes.
Et toute l'audience dans les sièges d'évêques, c'était assez...
C'était assez bien, ça devait être confortable classe. Parce que moi j'en ai vu qui se sont endormis.
Oui,
donc...
je ne dénoncerai pas.
Voilà, et non, mais après voilà, ça peut être... Je pense qu'un des, un des bons souvenirs aussi, en 2014, on avait eu deux orateurs étrangers... Donc il y avait Eva Lotta et l'autre, je ne sais plus, qui est un orateur allemand aussi, qui parlait tous les deux très très bien français.
Eva Lotta est allemande en plus.
Eva Lotta est allemande.
Elle nous a fait un gag génial.
L'autre orateur qui était un expert en JavaScript, qui parlait aussi très très bien français, et on les a emmenés au resto. Et elle qui nous disait je veux impérativement manger du canard. Donc nous sommes allés manger du canard quelque part et c'était très 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 très, très belle soirée.
J'ai évoqué les goodies d'exposants en début d'émission. Vous-même, je crois que le premier goodies de la première édition de Sudweb a été rafraîchissant.
Tout à fait, oui. dès le début, on s'est dit on fait un goodies et on a fait une gourde. Parce que c'était un bon moyen finalement pour nous de limiter un petit peu les déchets, et en plus on avait mis sur une table, on avait mis un parking à gourdes, c'est-à-dire que les gens, donc il y avait des emplacements 1, 2, 3, 4, 10, les gens plaçaient leurs gourdes et on allait les remplir, on leur remettait sur le truc. Moi je l'ai toujours et je l'emmène en voyage. Oui, a priori, il y a des gens, alors il y en a qui m'ont dit, moi elle a fui, moi elle a rouillé dedans, moi elle est passée sous un bus, bah moi je l'ai toujours.
et tu parlais de Eva Lotta tout à l'heure, on parlait de cycle conférence, et moi je me souviens que l'édition 2014, il y avait, bah, je l'ai quelque part derrière, il y a un carnet à dessin,
oui,
avec un crayon, oui. On était là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'il prépare, avec un sac éco-responsable vert, hein, d'ailleurs, oui. Il est planqué derrière, et Eva Lotta a fait un cours de dessin, et c'était génial.
C'était briser la peur de dessiner, et oui, on s'est dit que du coup, le goodies, le mieux pensé finalement pour ce genre de truc, c'était d'avoir ce carnet de dessin avec le crayon, et tout le monde a dessiné.
Et je crois que j'ai jamais autant ri dans un cours de dessin quand puisqu'elle a dit alors on va commencer par faire des points. Alors comme vous êtes français, vous les faites en désordre les points comme s'ils manifestaient. Et moi comme je suis allemande, je fais les points très 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 droits et qui distance. Elle a été adorable vraiment cette conférence et toute sa journée était absolument super. Sur les goodies, il y en a certains des fois je suis tombé des nues. Des Vox, j'ai su le dernier jour où j'y étais qu'en fait il y avait un sac à récupérer.
Ouais.
Un sac à dos. Et le mec, il met un pognon, ça doit pas être possible. Toi, quel est le... Alors, goodies ou pas goodies, ça c'est un sujet que j'aimerais faire quand même complètement à part dans CPU, mais quel est le souvenir de goodies qui t'a rappelé quelque chose dans une conférence?
Alors, le plus inattendu, on l'a fait, nous, à Sudweb, à Bordeaux en 2016. Et on a eu une conférence finale qui était d'une, j'ai oublié son nom, je suis désolée, c'était Mylène, qui travaille, qui est styliste et qui essayait notamment de travailler à limiter son impact écologique en tant que styliste. Donc dans le milieu de la mode, il y a beaucoup de déchets. Et c'est vrai qu'il y avait cette conf avec une styliste et tout le monde s'est dit mais d'où ça sort ce truc.
Et à l'époque, on n'avait pas Shein encore.
Ouais. Mais en fait, elle a fait une conférence où elle expliquait finalement le monde de la mode, comment il marchait. Et il y en a plein dans la salle à qui ça a fait tilt et qui se sont dit « Mais en fait, nous, dans le milieu du dev, c'est pareil, on industrialise énormément et donc ça fait finalement énormément de déchets derrière parce qu'il y a de la maintenance, etc. » Et en parallèle de ça, elle avait créé un goodies qui était finalement une espèce de petite pochette en rouleur de câble qui était en déchet minimum, voire zéro déchet, qui était un truc à faire soi-même et... À la fin de sa conf, elle a dit mode d'emploi pour le faire, et donc tout le monde est en train de monter les pièces finalement du goodies pour monter son porte-câble. Et j'ai vu passer sur, je me souviens à l'époque sur Twitter, des gens qui ont dit best goodies ever, enfin qui étaient très très appliqués. Alors il y en a qui ont dit bon c'est rigolo, c'est vrai qu'on s'en servira peut-être pas, mais moi j'ai toujours il est dans un coin et voilà. Mais c'était tellement inattendu. Ça a été la même chose avec la serviette en 2012 où Bruce Lawson dont tu parlais tout à l'heure, notre orateur punk anglais, a dit c'est le goodies le plus improbable que j'ai jamais eu.
Faut expliquer. J'en parle la semaine prochaine. Voilà, c'était le jour de la serviette. Hop.
Donc en référence, effectivement.
Ouais, c'était le vendredi 11 juin 2012. J'étais venu avec une serviette pour rien.
Voilà. C'était effectivement en référence voilà, au Hitchhiker's Guide et de Douglas Adams. Et quand on réfléchissait aux goodies en équipe, il y a quelqu'un qui a dit « Et pourquoi pas une serviette ?» Comme ça, en rigolant sur Twitter, et en interne, on se dit « Et pourquoi pas ?»
Et allez hop, c'est torché.
Voilà, et donc, on a eu la serviette, que j'ai toujours aussi, parce que, voilà, c'est des goodies qui durent.
C'est PU, carré, petit, utile.
Nathalie, comment se décide la programmation d'une journée de conférences techniques ?
Alors, pendant quelques années, on a fait le classique appel à sujet, donc en disant « bonjour, bah, voilà, la conférence, l'appel à sujet est ouvert », et donc on propose un formulaire où les gens proposent des sujets, donc 5 minutes, 20 minutes et 40 minutes à l'époque. En 2013, finalement, après la troisième édition, il y a quelqu'un de l'équipe qui a dit « et si on changeait un petit peu la donne et qu'on allait chercher des gens ?» C'est-à-dire qu'on fasse de la curation plutôt que d'attendre que les gens se manifestent d'eux-mêmes. Donc, du coup, on s'est lancé là-dedans et on est allé voilà chercher des gens. Donc, au départ, on est allé chercher toutes les personnes qui faisaient les slots 20 minutes et on a laissé les 5 minutes en appel. Et ça a duré comme ça pas mal de temps et ça a permis finalement d'aller trouver des sujets qui seraient pas venus d'eux-mêmes à nous, qui finalement n'auraient peut-être pas eu un rapport direct avec le web, typiquement ce dont je parlais tout à l'heure, la conférence de Mylène qui travaillait dans le monde finalement du stylisme et de la mode. Le rapport avec le web, il est pas évident, mais comme une personne de l'équipe la connaissait, avait eu l'occasion de discuter avec, lui il a vu le truc et il s'est dit mais il y a moyen finalement de faire quelque chose d'assez inhabituel et de sortir des sentiers battus. Ça permet aussi d'aller chercher des gens qui ont pas forcément eu l'occasion de parler auparavant, donc plutôt c'est vrai que ça râle beaucoup sur ouais il y a des conférences où c'est toujours les mêmes gens qui interviennent. Et il faut bien savoir que pour avoir des nouvelles têtes, la plupart du temps, il faut aller les chercher parce que d'eux-mêmes, ils viennent pas, parce qu'ils osent pas. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent...
Il y a beaucoup qui se sentent pas légitimes.
Il y en a beaucoup qui se sentent pas légitimes. Après, moi, je sais que... je crois que c'était la deuxième ou troisième année à Paris Web, un des vieux de la vieille m'a dit « Mais tu veux pas proposer un sujet ? » Et moi, le problème, c'était pas d'être légitime ou pas, sur scène, j'avais pas peur. C'est juste que j'avais pas d'idée. Je me disais ouais, enfin, ou alors quand j'avais décidé, c'était j'avais de quoi tenir 2 minutes et demie, mais pas au-delà, quoi. Je savais pas comment finalement déployer mon sujet. Donc il y a plein de gens comme ça. Il y a des gens qui ont des choses aussi à raconter. C'est pour ça qu'aussi nous on est parti sur l'idée de on vous demande pas de venir en tant qu'expert de telle techno, telle méthode, machin. Venez raconter ce que vous avez vécu. Et plutôt, là, on avait une conférence, par exemple, un peu technique sur le Black Friday, et l'idée, c'était que la personne nous dise comment mes équipes, elles ont survécu à la furie du Black Friday en niveau technique, quoi. Et on lui a,
parce que
on
c'est
lui a
vrai
dit...
que côté e-commerce, c'est, quand on est sur une très grosse enseigne, c'est hallucinant.
On lui a dit, on espère que ce que tu vas pas nous pondre, c'est des solutions techniques. Il a dit, et il a dit, bah, je vais en parler un peu, mais c'est vrai que je vais surtout parler finalement du moral de l'équipe, de comment ils le vivent, et comment on a aussi réussi à maintenir la cohésion sans que tout le monde passe, parte en burn-out ou explose finalement en déprime, en dépression, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, d'une manière intéressante, la thématique vient en fait avec ce que proposent les orateurs.
Il y a pas vraiment.
Des fois, c'est on veut faire telle thématique et on sait qu'on va prendre un tel là-dessus.
Alors nous, on n'a jamais fait de thématique. En fait, Paris Web en fait, mais généralement ça part un peu dans tous les sens. Donc, mais ils continuent à en faire, mais ils ont raison. Nous, on avait peut-être hésité là pour cette année pour une reprise de dire comme c'était la 10e édition, mais ça faisait pas 10 ans, c'était un peu le bazar avec le Covid et tout. Mais on s'est dit en espèce de 10 ans, donc c'était 10 ans après. Et d'où le fait qu'on t'avait demandé si tu voulais bien parler de finalement les tests de recrutement 10 ans après. Et de donner une voix un petit peu égale entre des anciens qui apportent finalement un retour sur leurs 10 ou plus d'expérience et puis des nouveaux. Voilà, c'était une sorte d'équilibre comme ça. Mais les années d'avant, finalement, il n'y avait pas de thématique réelle. Par contre, quand une fois qu'on avait choisi finalement les sujets, on essayait de faire en sorte qu'ils s'enchaînent un petit peu de manière logique. Pas de les caler comme ça un peu dans tous les sens.
Ouais, il y a une narration.
On essayait de, voilà, de faire du storytelling, comme on dit.
Quand vous faisiez un appel à orateur, quel était le nombre de propositions que vous receviez ?
Moi, je crois qu'au plus haut, on a dû en avoir 110. Là, cette année, on en a eu 54. Tu vois, c'était beaucoup moins que les autres années, mais bon, c'est pas très mal.
Vous êtes venu me chercher, mais il a fallu que je postule. Hein.
Oui, oui, oui. Non, mais après, on t'a dit, ça t'intéresse, puis après, t'as postulé, mais bon. Et ouais, on en a eu 54, donc voilà, ça se tenait peut-être entre 60, ouais, 80, un peu, en moyenne, je dirais 80-90.
Est-ce que les orateurs sont payés ? Ou est-ce qu'il y en a qui demandent à être payés ?
Alors, payés, non. Ils sont défrayés, donc s'ils viennent de loin, on leur propose un hôtel, on leur propose de payer aussi les déplacements. On n'a jamais eu de demande à être payé. Il y a eu, alors je sais qu'il y a une époque, Franck voulait impérativement des têtes de pont type Jeffrey Zellman, sauf que c'était 10 000 euros. Voilà, donc on allait vite laisser tomber.
C'est deux fois le budget, là, ça va.
Oui, voilà. Mais ouais, après, voilà, ouais. Les gros stars internationales, effectivement, eux se font payer. Mais même, tu vois, quand on a eu Eva Lotta, elle a jamais demandé à être payée. Elle était tellement contente de venir manger son canard.
On avait enregistré deux émissions de CPU en plein mois d'août à l'Apple 2 Festival organisé par les copains de l'association Retro Gaming Silicium. Et ils avaient dit, une fois, on avait tenté d'avoir Wozniak, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple et l'architecte de l'Apple 2. Et ils ont dit, bah, quand on a eu la réponse, le devis, on a littéralement halluciné, c'était juste pas possible. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est un petit peu... Ça me semble un petit peu normal qu'ils demandent une telle somme. C'était pour voir, est-ce que vous êtes sérieux ou non ? Parce qu'à mon avis, ils doivent être tellement sollicités pour certains que...
Oui, clairement.
C'est deux fois par semaine, quoi, quasiment, qu'il faudrait qu'ils y aillent, quoi.
Alors, pour des têtes de pont, effectivement, comme Wozniak, ça m'étonne pas. Après, pour des gens peut-être un peu plus... je dirais, qui sont moins connus internationalement ou même nationalement. Nous, personnellement, vraiment, on n'a jamais eu de personnes qui nous ont dit, moi je viens, enfin, qui ayant déposé un sujet à qui on aurait dit c'est bon, on vous prend, nous derrière nous disent, ah, au fait, je vous ai pas dit, je prends 2000 euros pour venir. Non.
Non, jamais, ouf. Bah, alors pourquoi est-ce qu'ils proposent des conférences ?
Je pense, pourquoi toi t'as proposé finalement ?
Je l'ai dit dans la chronique justement. C'était pour pouvoir y aller parce que j'avais pas les moyens.
Oui, voilà. Alors après, mais je pense que parce que les gens ont envie aussi d'échanger, de raconter leurs trucs, parce que avant il y en a d'autres qui l'ont fait et qui se sont dit mais moi aussi j'ai envie de raconter des choses. Et puis de plus en plus de gens qui se disent bah après tout moi aussi je suis légitime pour raconter mon expérience. Donc c'est super finalement pour tout le monde, c'est super pour les anciens qui peuvent s'y retrouver, se dire ah là là moi je suis pas tout seul, c'est super pour les nouveaux qui peuvent se dire bah je me sens voilà, ça me rassure finalement sur ce que peuvent vivre ceux qui ont l'expérience, et puis que les nouveaux viennent aussi raconter comment ils vivent les choses. Enfin, c'est l'occasion finalement de partager avec d'autres son vécu. Enfin, en tout cas pour les sujets tels qu'ils sont à Sudweb, c'est on partage son vécu. Après, pour d'autres conférences où ça va être plus des trucs, je viens donner mon savoir, bah c'est exactement comme finalement un prof qui va exposer son savoir dans un collège, un lycée, une université, quoi. C'est transmission de quelque chose.
Oui, il y en a des fois juste pour recruter, pour leur nouvelle technologie.
Peut-être, c'est jamais arrivé chez nous.
Bon, d'accord.
Bon, alors, vas-y, quoi, donc?
Non, je dis ça en rigolant. Ah. Sudweb est une conférence monotrack, comme donc on l'a dit dans la précédente émission, c'est-à-dire qu'il y a un seul programme, une seule salle, pratiquement tout le monde, parce qu'on peut quand même s'échapper de la salle, ils sont pas fermés.
Oui, on a le droit.
C'est la règle des deux pieds, si tu t'emmerdes, tu prends tes deux pieds et tu vas dormir dehors. Du coup, donc il y a un seul programme principal, à la différence de Paris Web, qui en a deux ou trois, en général, ou le Capitole du Libre, qui en propose plus d'une dizaine en simultané que au secours, ou c'est qu'à laquelle que je veux y aller, pour voir. Qu'est-ce que cela implique sur les choix, finalement, d'avoir justement un seul programme? Est-ce qu'on est obligé d'être justement un petit peu plus consensuel, où on se dit, bah tiens, on va les secouer là-dessus?
Là où il faut être consensuel, c'est d'essayer quand même d'avoir des conférences qui puissent être défendables pour des salariés auprès de leur patron. De dire, bah tiens, je vais à la conf là. Ok, mais t'y vas pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu des périodes où, moi je sais qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui me disent, ah mais je préfère aller à React Europe. Bah, évidemment, à React Europe, le JavaScript qui était en plein boom, React qui était en plein boom, donc c'était... Vas-y, je vais envoyer mes équipes, elles vont apprendre toutes les dernières technos de ouf sur React. Je sais pas, on fait encore du React de nos jours? Oui, ça va, bon, ça va.
Écoute, il y en a, mais c'est des projets historiques. Il y a des nouveaux projets qui se lancent en React, mais je pense que, voilà, à ce stade, autant les faire en Angular.
Mais c'est sûr que c'est plus facile, finalement, de vendre des conférences un petit peu techniques où je dis, bah... Moi, en tant que boss, en tant que directeur technique, je peux envoyer mes équipes, elles vont apprendre des trucs qui vont être utiles le lundi. Alors que finalement, à Sudweb, c'est peut-être un peu plus mitigé. Donc, on essayait quand même d'instiller des trucs où on disait, ça va, ça peut quand même faire venir des gens. Après, on avait quand même beaucoup d'indépendants qui venaient, donc ils étaient libres finalement de venir eux-mêmes, de décider. Donc voilà, on avait quand même un public qui était captif et qui n'avait pas à demander l'autorisation de « est-ce que je peux y aller ? Est-ce que tu peux financer mon ticket ?»
Voilà. Il y a des boîtes qui envoient comme ça des équipes complètes.
C'est arrivé une fois, mais
je crois qu'en plus ils étaient sponsors.
Ils sont venus à 25, ils ont pris plein de places. Et le problème, c'est qu'en plus, il y en a, je crois que sur les 25, il y en a une dizaine qui sont pas venus, alors qu'il y a d'autres gens qui voulaient venir, parce que il me semble qu'on avait fait le plein. Et il y a d'autres gens qui voulaient venir et qui, du coup, ont pas pu venir. Ça a été un peu dommage, mais bon, c'est bon. C'est pas grave, écoute. Hein.
ça se comprend.
Mais c'est arrivé une fois.
CCPU, l'émission Carré Petit et Utile, et nous parlons d'organisation de conférences techniques avec Nathalie Rosenberg, qui est cofondatrice et co-organisatrice du cycle de conférences Sudweb, qui sont des journées professionnelles, et dont l'édition 2023 vient d'être annulée.
Eh oui.
Est-ce que vous discutez avec d'autres organisateurs de conférences techniques?
Non. On connaît un petit peu les gens de Paris Web, parce qu'effectivement, on les connaît, mais il n'y a jamais eu d'échange, finalement, de bonnes pratiques, en mode, tiens, vous faites ça comment, machin, ou qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire. Par contre, on sait que nous, on a fait... tous les ans, on essayait de tester des nouveaux trucs, et on a vu que, notamment Paris Web, les reprenait derrière un petit peu, en mode, bah tiens, on va faire comme eux, enfin, c'était assez rigolo. Et je sais qu'une fois, il y avait une des membres de l'équipe, qui n'est plus dans l'équipe, mais il y a quelques années, qui m'avait dit, ah là, on avait fait une discussion sur des nouveaux trucs à faire, alors c'était, tiens, on va faire ça, et moi je disais, mais non, mais Sudweb l'a déjà fait, et on va faire ça, bah non, mais Sudweb l'a déjà fait aussi.
Dommage. Est-ce que vous refilez les orateurs entre vous, ou est-ce que vous vous inscrivez dans d'autres conférences pour aller espionner les bons plans?
Non, pas du tout. Mais là, effectivement, avec l'annulation de Sudweb 2023, on a écrit aux oratrices, aux orateurs, en leur disant, on vous invite finalement à présenter vos sujets sur d'autres conférences. Ça serait vraiment dommage qu'elles passent à la trappe. Je sais pas si ça se fera, mais bon, on verra.
comment viennent les nouveaux orateurs? Vous allez les chercher ou spontanément ils poussent dans le jardin puisqu'on est en plein printemps?
Eh ben écoute, là, c'est vrai que les voilà, il y a eu toutes les années.
Ceci dit, les terres sont moins fertiles et même un petit peu plus sèches hein, en ce moment. Je pense que c'est le réchauffement climatique.
Écoute, non mais. C'est vrai qu'il y a eu, entre 2014 et 2016, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de... Mmh. Voilà, il y a eu toute la curation, donc c'est vrai qu'on est allé chercher des nouvelles têtes. 2017, on était revenu à un truc un peu plus hybride. Je crois qu'on était allé chercher personne, mais là, ça a été pareil, en fait. On t'avait contacté de voir si tu pouvais, si ça t'intéressait. On a contacté une autre personne et on a dit mais est-ce que finalement tu aimerais nous présenter c'était donc la personne qui s'occupe qui travaille sur Wikipédia qui s'appelle les 100 pages, donc qui travaille à redonner, à donner de la visibilité sur
à
les
des personnalités féminines,
à des personnalités notamment à des femmes sur Wikipédia. Moi je suppose, mais c'est complètement par hasard, c'est-à-dire que j'ai vu passer effectivement quelque chose sur Mastodon, un message comme ça, mais je me suis dit mais il nous faut un truc comme ça. Donc on a contacté, la présidente nous a contacté, on lui a dit et elle nous a dit je peux parler de ça, de comment moi je suis rentrée dans l'association, par quel biais. Donc tu vois, encore du retour d'expérience, et on a dit banco, nous on prend ce sujet. Mais sur le reste, eh ben ils sont venus tout seuls, et notamment des sujets qui nous ont assez étonnés, et qui notamment de personnes qu'on n'aurait peut-être pas vu les années d'avant et qui ont osé. Et moi, je me dis, c'est tellement dommage finalement que l'édition ait pas lieu, parce que ça, il y a des personnes qui auraient pu proposer, qui proposaient finalement des sujets qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et qu'on n'entendra peut-être pas. Et je pense notamment à celui d'Agathe Blue qui est une femme trans et qui dit comment finalement il a fallu que je change mon identité sur tous les services en ligne en tant que femme trans.
Et c'est compliqué.
Et c'est compliqué. Et en plus, il y a une des personnes de l'équipe qui est une femme divorcée. Elle m'a dit, moi, ça fait écho parce qu'en tant que femme divorcée, il a aussi fallu que je change mon identité. C'était le même bordel. Donc, ça concerne pas que des femmes trans, finalement. C'est quelque chose qui peut parler à beaucoup plus de personnes. Et puis,
L'handicap subi de certains, on se rend compte que ça lance des problématiques à bas bruit chez tout le monde, quoi.
Voilà.
Est-ce que vous coachez les orateurs?
Alors oui, depuis pas mal d'années, effectivement, on le fait, et on le fait aussi pour, on le faisait, pour, y compris pour les personnes qui étaient des personnes chevronnées sur scène. Et notamment, je repense à quelqu'un qui avait fait pas mal de confs et qui a dit, moi, ça m'a été très utile, le coaching, finalement, même si j'ai déjà fait 10 confs dans ma vie. C'est toujours bien, finalement, d'avoir des retours. Ça nous permettait de pouvoir recadrer des orateurs. Ça nous a permis de, finalement, d'éviter un petit peu les ratés qu'on a pu avoir les 2-3 premières années, avec des conférences qui sont parties un petit peu dans tous les sens, des conférences un petit peu surprises, où finalement, c'était des gens qui venaient vendre leurs produits, ou des gens qui se sont tétanisés sur scène. Ça s'est arrivé une fois. Voilà.
Justement, c'était la question suivante. Avez-vous eu des déceptions dans les orateurs? Genre, c'était pas le sujet prévu, il a été plat, mou sur scène. Ouais, même carrément, il s'est comporté comme une diva. Alors là, tu peux me dénoncer, hein, c'est le cas.
Non, toi, t'étais à deux doigts de l'explosion. T'étais à deux doigts quand même de
m'évanouir.
De t'évanouir, oui, j'allais dire de l'arrêt cardiaque, mais alors, des divas, non. On n'a pas eu de diva. On a eu une personne qui a un petit peu bloqué sur scène, effectivement. Heureusement, c'était un lightning talk de 5 minutes. Donc, ça a été... C'était un peu le malaise, effectivement. On a eu des conférences un petit peu chiantes. Alors, la dernière 40 minutes qu'on a eue, on s'est dit, c'est après ça qu'on s'est dit, plus jamais. On va recadrer le programme et faire des choses beaucoup plus dynamiques. On a eu peut-être aussi des petites surprises où, sur le papier, la conférence est vachement intéressante. Et puis, en vrai, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Voilà. D'où l'idée du coaching derrière, qui permet un petit peu de, finalement, d'avoir moins de surprises, et puis de mieux préparer les orateurs et les oratrices.
Alors, je sais, l'édition de cette année n'a pas lieu, et c'est vraiment dommage, parce que quand même, un point important, je tiens à vous féliciter, c'est la parité atteinte dans le programme.
C'était pas la première fois. C'est ça, en fait, le truc, c'est que c'était pas la première fois qu'on atteignait la parité, mais c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a jamais communiqué là-dessus. On n'a jamais voulu arriver en disant « Youhou, vous avez vu, on est super, on est à parité, on est à égalité, on a des gens, des cieux, des minorités. » Non, on s'est dit « Mais le programme, il est là, il parle pour lui. » C'est visible, hein, quand une personne trans te dit qu'elle fait un sujet sur comment gérer son identité trans sur le web, c'est quand même, enfin voilà quoi, c'est faut quand même être un peu idiot pour pas le voir ce truc. Donc on n'a jamais dit ouais c'est génial, on est à parité, on n'a jamais communiqué là-dessus, on a laissé les gens s'en rendre compte tout seuls. Et après, ils en faisaient ce qu'ils en voulaient. S'il y avait des gens que ça gênait, eh ben, tant pis. C'est pas les gens, finalement, qu'on a envie d'avoir dans la salle. Donc, si ça a fait du tri, et que ça a permis, globalement, à des chieurs, ou à des emmerdeurs, de pas venir, eh ben, tant mieux. Voilà. Donc, la parité, on l'a eu cette année, mais on l'avait déjà eu les années d'avant.
Revenons sur le bilan financier. Qui sont les sponsors? Qui le devient? Pourquoi? Est-ce que c'est le besoin de vendre un service, de recruter, de se refaire une image, voire une virginité?
Alors, on a eu plusieurs types de sponsors. C'est vrai qu'il y en a, qu'on était allé chercher, qui avaient peut-être eu un petit peu l'idée qu'ils allaient pouvoir vendre des trucs. Qui, bon, se sont dit, moi, c'est quand même une petite conf, alors ils ont été un peu déçus. On a globalement eu des sponsors, alors je vais les citer, hein, parce que ils sont dignes d'être cités, c'est des gens comme Jolicode, ou Globalis, ou Evolix, qui sponsorisent pour que l'événement existe en lui-même. C'est-à-dire qu'ils attendent absolument rien en retour. Ils s'attendent pas à ce qu'on les cite partout, à pouvoir recruter au moins X personnes. Ils font ça vraiment pour que ça existe, et parce que pour eux c'est important. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis on a eu des sponsors, alors des trucs un peu plus institutionnels qu'on a réussi à aller, je sais pas, à voir comment, il y avait eu Mailchimp. On est retombé finalement sur la liste des sponsors il y a pas longtemps, on s'est dit, on avait eu Mailchimp, mais comment on a eu Mailchimp? On sait plus, hein. Franchement, on va plus chercher, ou alors des sponsors qui finalement étaient les fournisseurs des stickers ou des badges, voilà. D'ailleurs, petite anecdote, l'année où on a eu le sponsor badge, dont j'ai oublié le nom, où finalement on recevait pas les, donc c'est les badges, hein, pour les participants. Et à 15 jours du truc, on n'avait toujours rien, pas de nouvelles, on les contacte, et ils nous disent « Non mais c'est bon, vous aurez vos trucs, genre, pour le 20 juin !» Et on leur a dit « Oui, mais nous, l'événement, c'est le 28 mai, un truc comme ça !» Voilà, ils n'avaient pas du tout percuté qu'ils allaient nous envoyer les trucs beaucoup trop tard, voilà.
Est-ce que les orateurs arrivent avec une proposition de sponsoring, ou est-ce que des sponsors demandent à avoir un créneau de conférence réservé?
Non et non. Ça a été... on n'a jamais eu d'orateur ou d'oratrice qui disait « Moi, j'arrive avec tel voilà tel sponsoring » et ou de sponsors qui disaient « Moi, je veux un créneau ». Non, ça n'est jamais arrivé. Comme je te disais, hein, ça, nos principaux sponsors, voilà, c'était des gens qui étaient là pour dire « Nous, on veut que ces événements existent, alors on fait en sorte qu'ils existent, on participe à notre petite échelle, c'est 1000 euros, 1500 euros, et ça vous permet de vivre ».
Et c'est un très beau geste.
Oui.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons organisation de conférences techniques avec Nathalie Rosenberg, co-organisatrice des Sud-Web et Lady Gaga du Web à paillettes, et personnalité très pétillante que l'on retrouve aussi, elle est en tournée à Paris Web, à plein d'autres confins techniques derrière. Nathalie, quelles sont les difficultés pour les conférences techniques après le Covid? Est-ce que ça n'a plus d'intérêt à venir sur place, ou est-ce qu'il y a une culpabilité trop forte à prendre l'avion?
Eh ben franchement, on ne sait pas. Globalement, la dernière édition avait eu lieu en 2019, donc c'est 2020, 2021, 2022, il n'y a rien eu. Donc moi, j'étais plus dans l'orga, j'avais quitté après 2017. Et c'est vrai que là, à Paris Web 2022, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, machin, ça manque, Sud-Web, blabla ». Donc on a rediscuté entre des anciens et puis des nouveaux qui voulaient se mettre dedans. Donc c'est là où on s'est dit « On relance ». Et on y allait la bouche en cœur. Et finalement, ça a été la douche froide à voir que après la publication du programme, enfin, avant la publication du programme, on avait vendu des places, comme d'hab, parce qu'il y a toujours des fans de la première heure qui sont là après prendre leur place, donc je crois qu'on en avait vendu une dizaine. Et puis, publication du programme arrive, et là, rien. Mais genre rien, c'est-à-dire que au bout d'une semaine de publication du programme, on avait vendu 3 places supplémentaires, ce qui est, enfin, c'est rien du tout. Alors qu'en temps normal, la publication fait que tout d'un coup, il y a après une quarantaine, au moins une trentaine de places qui partent. Là, c'était rien du tout. On a eu des contacts avec l'Agile Tour à Toulouse qui nous ont dit, bah, on est un petit peu nous dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des gens. Alors ça se vend un petit peu, et mais c'est pas comme avant. Donc je sais pas du tout. Est-ce que y a plus de place pour certains modèles de conférences? Est-ce que les gens veulent autre chose? Est-ce que finalement, je sais pas si c'est vraiment la peur de prendre l'avion ou la peur de se retrouver. On a bien vu à Paris Web, il y avait des consignes sur les masques, mais en fait il y avait 10% des gens qui en portaient un, le reste non. Donc, et il y avait quand même eu pas mal de gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de gens que ce à quoi je m'attendais. Donc là, on n'a pas trop d'explications. On sait pas du tout. Parce que c'est vraiment, enfin, là, c'est clair que là, il y a pas de répondant. Il y a notre public habituel est pas là. Alors. Petit gag, c'est intéressant, pour une fois que le RGPD a fait son boulot, parce qu'on avait une base de gens qui étaient inscrits sur MailChimp pour la newsletter, donc là on s'est dit, on reprenait tous les accès qu'on avait, et on essaye de se connecter sur MailChimp, ça marche pas, on ne comprend pas pourquoi, et puis, donc c'est bizarre, etc., et en fait en farfouillant dans les mails, je trouve un mail qui date de 2021 de MailChimp, qui dit... en substance, c'est ça fait 2 ans que vous êtes pas connecté, vous avez pas utilisé votre truc, donc on va tout écraser. Voilà.
Ça a pas aidé.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on avait plus de base. Donc pour une fois que le RGPD a marché, évidemment, ça nous a pas aidé. Hélas. Donc on n'a pas pu contacter notre base habituelle, mais il y avait plein de gens qui venaient habituellement, qui étaient au courant et qui ont dit. Alors il y en a, ils m'ont dit on avait d'autres trucs prévus, et puis d'autres ils ont. En fait, il y a des gens, ils nous ont rien dit, ils nous ont pas dit, non, c'est trop cher, c'est plus le moment, ça nous intéresse pas. Il y avait plus de retour, finalement. Et l'éclatement aussi des réseaux sociaux par rapport à avant. C'est-à-dire qu'on avait une com qui était essentiellement axée sur Twitter. Là, on a des gens, qui sont sur Twitter, ou sur Masto, mais qui ont peut-être pas re-suivi le nouveau compte, qui sont sur LinkedIn, donc c'est parti un petit peu dans tous les sens. Mais ça s'est complètement éparpillé, et je pense qu'il y a eu de la perte à ce niveau-là. Donc, on sait pas. C'est un petit peu le mystère, finalement.
Je tiens à signaler, c'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, que Devox France, qui a lieu au Palais des Congrès à Paris, a annoncé que l'année prochaine, ils allaient prendre un étage supplémentaire, puisqu'ils estiment qu'ils sont en progression de leur côté. Donc,
mais après, je pense que, alors, les confs techniques, vraiment techniques, sur des technos précises, mon avis, je pense que elles continueront à faire le plein. Nous, on est sur une thématique qui, globalement, déjà, était un petit peu suspecte aux yeux de beaucoup, donc, le fait qu'il n'y ait pas de retour, moi, ça m'étonne pas, mais que, voilà, que Devox, ça marche, ou d'autres trucs hyper pointus, hyper précis, ça marche. On était au FOSDEM, là, au mois de février, il paraît qu'il y avait 10 000 personnes.
Ok, ouais, quand même. Sudweb s'est offert de chouettes endroits, comme la salle papale dans le Palais d'Avignon, ça on en a parlé. Là, ça aurait dû être la Cinémathèque de Toulouse, la salle B, pour ceux qui connaissent, celle qui est à l'étage. Qu'est-ce qui guide ces choix?
En fait, c'est... on se décide généralement d'une ville, et après, on cherche... Mais c'est quoi les lieux où on pourrait faire quelque chose? Donc on épluche finalement les sites qui proposent des salles, et puis on voit, faut que ça soit central, faut pas que ça soit excentré et qu'il y ait besoin.
C'est-à-dire pas comme la FUP, on fait un petit truc en banlieue de Paris, il y a des hôtels, mais bon.
Oui, faut pas qu'il y ait une demi-heure.
Bon, c'est à l'Euro Disney, voilà.
Faut pas qu'il y ait une demi-heure de transport avec 3 bus à prendre pour aller, parce qu'il y a des trucs sympas finalement à Toulouse, mais qui sont un petit peu loin et c'est un petit peu compliqué d'y aller. Donc là, la Cinémathèque, tu nous en avais déjà parlé, je sais plus pour quelle édition.
Me dénonce pas, merci.
Oui, mais c'était vrai. C'est vrai que c'est toi, tu m'avais dit, ils font ça. Et je sais plus pourquoi on n'y était pas allé. Bref, on les avait pas contactés à l'époque. Mais du coup, là, je les ai recontactés. Et ils étaient partants pour finalement nous prêter la... Enfin, nous prêter, c'était payant. C'était pas très cher, mais voilà, pour nous permettre finalement de faire quelque chose sur une journée.
Et quelles sont les difficultés sur les choix des salles? Est-ce que c'est la couverture en Wi-Fi, en 5G, 4G?
Bon, c'est le prix. Après, le premier instant, c'est le prix. Tu vois, en 2012, on avait vu avec la Cité de l'Espace. C'est sympa, la Cité de l'Espace. Bah, c'était 10 000. Voilà. C'était pas le même budget. Donc après, le Wi-Fi, alors oui, je me souviens, je crois que les deux premières années, il n'y avait pas de Wi-Fi. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas de 4G illimité. Aujourd'hui, ils s'en foutent.
Ouais, maintenant, on s'en fiche complet, ouais. Sur l'édition de cette année, encore une fois, bien dommage qu'elle n'ait pas eu lieu. Et même si en tant qu'organisateur, on galope partout en coulisses, hein, j'ai été dans ce genre de raout, je sais ce que c'est malheureusement. Mais quelle conférence t'aurais aimé assister, assise dans la salle?
Celle d'Agathe dont je parlais tout à l'heure, parce que pour moi, ça avait été mon coup de cœur dans les sujets, en fait. C'était... parce que ça sortait tellement de l'ordinaire, finalement, des choses qu'on peut voir en temps normal. Mais il y en avait d'autres, hein. C'est vrai qu'il y avait d'autres trucs où je me dis, c'est dommage, finalement, qu'on les ait pas vus.
Dommage. Et est-ce que vous tenterez de monter une édition 2024 de Sudweb?
À 99,9%, je te dis non.
D'accord.
Voilà, non, c'est non. C'est franchement, là... Et je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a eu, quelques petits clashs là depuis jeudi soir, après notre annonce finalement de l'annulation, de gens, voilà, qui ont dit des trucs un petit peu sur les réseaux. Alors il y avait des questionnements légitimes. Il y en a qui sont partis un petit peu en sucette et vendredi matin, en fait, il y avait une partie de l'équipe, dont moi, on n'était vraiment pas bien.
Donc là, on en parle 24 heures après. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, globalement, ça nous a échaudés. Et on se dit, mais de toute façon, vu que là, en plus, finalement, les gens étaient pas là, avaient pas l'air de dire, ah, c'est trop bien, mais je peux pas venir parce que machin ou ceci. C'était le calme plat. Et je pense que là, si cette année ils étaient pas là, ils seront pas là l'année prochaine. Et on va pas non plus. Dépenser énormément d'énergie pour retenter quelque chose qui, au final, il y aura peut-être 25 personnes qui seront prêtes à venir.
Dommage, parce que ma dernière question va tomber complètement à l'eau, mais j'estime qu'il est important quand même de la poser, puisque dans le cadre d'une méthodologie d'amélioration progressive, qu'est-ce que vous allez tenter de faire si elle devait avoir lieu l'année prochaine, changer pour qu'elle puisse avoir lieu?
Rien. Mais par contre, on s'est dit que l'équipe, on allait quand même se retrouver à Toulouse et on allait organiser une espèce de soirée off le vendredi soir où c'était prévu pour les gens qui veulent venir. Voilà. C'est ça, finalement, notre dernière amélioration. Finalement, à un moment donné, Sudweb, on s'était dit, quand on a les fondateurs, on a commencé à quitter progressivement l'équipe, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on fait de Sudweb? Est-ce qu'on fait une ultime édition où on crame tous les fonds qu'on a, c'est la grosse fête? Est-ce qu'on quitte tous d'un coup et on laisse les clés à d'autres qui en feront ce qu'ils veulent? Ou est-ce qu'on ferme? On a fait rien de tout ça parce qu'en fait on est partis les uns derrière les autres, on a passé les clés. La dernière année, il y a des gens qui se sont retrouvés à finalement gérer un truc un peu par défaut, ils avaient plus envie, il y a eu le Covid, ils maintenaient finalement l'association officiellement, administrativement, mais eux ils avaient plus envie de rien faire, ils étaient plus que deux. On a récupéré finalement tout ça et on pensait finalement peut-être relancer la machine et faire une, au moins en tout cas une belle édition, et pourquoi pas après une dernière après. Et globalement, c'est dommage parce que ça sera une non-dernière, une no-conf morte dans l'œuf. Et il n'y aura pas de belle fin. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de belle fin publique. Il y aura peut-être une belle fin un peu intime avec ceux qui voudront bien venir ce vendredi 2 juin, je sais pas où.
Merci Nathalie. Je tiens à dédier cette émission à la mémoire de Franck Taillandier qui a beaucoup fait pour nous. Pour Sudweb, qui nous a beaucoup motivés sur plein de choses, et sans qui, même, tu vois, je ne suis pas sûr que j'aurais monté l'émission CPU.
Voilà, et il avait toujours cette phrase où il disait « ceux qui font décident ». Je la garde toujours en tête.